Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis Alain Thomasset, donc professeur d'éthique et théologie morale dans cette maison, ancien doyen de la faculté de théologie. Je suis heureux de vous accueillir au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Cet établissement, sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus, a pour mission de former des jésuites du monde entier, mais aussi des religieux, religieuses, toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en philosophie et en théologie. C'est aussi un lieu d'échange, de réflexion sur des sujets contemporains de société. On est la preuve ce soir ce qui nous rassemble autour de l'œuvre de Hans Joas, que je suis très heureux de saluer. Cette soirée fait suite à une journée d'études au CEVIPOF de Sciences Po sur le livre traduit récemment en français de Hans Joas, « Comment naissent les valeurs ?». Et ce soir, nous sommes réunis autour du livre « Les pouvoirs du sacré ». Et un livre qui a été un commentaire de ce livre, une réaction à ce livre qui s'appelle « Le sacré en question », que vous pourrez trouver à la librairie au fond. Ce livre, « Le sacré en question », co-dirigé par Alexandre Escudier, Pierre Gisèle et Jean-Marc Tétaz, vient de paraître aux éditions Laboret de Fides et se veut une réflexion autour du livre que je viens de citer de Hans Joas, « Le pouvoir du sacré », une alternative au récit du désenchantement, paru au Seuil en français en 2020. Ce livre, donc, est le fruit d'un colloque qui aurait dû avoir lieu en partie dans cette maison, mais qui finalement n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Voilà, donc nous avons fait ce livre, mais en distanciel, si on peut dire, et non pas en présence. Pour cette soirée, donc, nous sommes heureux et honorés d'avoir la présence de Hans Joas. Merci beaucoup d'être venu. Professeur en sciences sociales à Berlin et à Chicago, auteur de nombreux ouvrages sur la sociologie de la religion, mais aussi sur les questions de la violence et de la guerre, et sur les thèmes de la théorie sociale à partir du pragmatisme de l'agir. Outre les auteurs de cet ouvrage qui sont présents parmi nous, trois intervenants ont été sollicités pour faire un commentaire de cet ouvrage, et c'est autour de la question du sacré aujourd'hui. Madame Aurore Dumont, merci, professeure de philosophie dans l'enseignement secondaire en région parisienne. Monsieur Marc Bloss, professeur de philosophie et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Paris et au Fonds Ricoeur. Vous êtes le directeur du Fonds Ricoeur, je crois. Voilà. Et Jean-Marie Donegani, professeur émérite des universités à Sciences Po et qui enseigne aussi au Centre Sèvres dans la maison sur la sociologie de l'expérience religieuse contemporaine. Nous nous entendrons chacun 10 minutes environ, et puis Monsieur Hans Joas pourra ensuite réagir aux interventions. Après ces interventions, les contributeurs de livres pourront aussi intervenir, ceux qui sont là, et puis évidemment le public en général. Peut-être, Hans Joas, vous voulez faire une petite réaction première. Je vous laisse la parole tout de suite.
Comme ce matin, je voudrais commencer par exprimer ma gratitude, premièrement à vous, à Alain Thomasset, notre hôte. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans les derniers mois à Namur et à Strasbourg. Et peut-être, vous me permettez aussi de mentionner que la dernière fois que j'ai visité cette maison, c'était quand j'avais déjeuné avec Jean-Yves Calvez, le grand jésuite, mais je ne me souviens pas quand c'était. Je pense qu'il est mort en 2010, alors probablement il y a quelques ans. Je voudrais aussi exprimer mes remerciements aux organisateurs de notre débat, et avant tout, pas pour le débat, mais pour avoir organisé ce volume collectif qui est vraiment instructif pour moi et je pense de très haute qualité. Ça suffit pour le moment parce que j'aurai une chance de répondre après les interventions. Oui, merci.
Merci. Mm-hmm. Avant de donner la parole aux intervenants, j'ai demandé à Pierre Gisèle qui nous fasse une petite présentation de Hans Joas et puis du livre dont nous allons parler ce soir.
Voilà, si tu veux prendre le micro comme ça, ce sera plus facile, sinon on va y arriver.
Ça va si je reste debout? Vous m'entendez? Alors très rapidement, et puis il y a déjà des choses qui ont été dites, donc voilà, puis on va pas anticiper sur le débat. Donc deux minutes sur Hans Joas, et puis deux minutes sur le livre qui est à l'arrière-plan du collectif dont on vous a parlé. Hans Joas, que vous venez d'entendre, il est né en Bavière en 1948, il était professeur aux universités d'Erlangen, Nuremberg, Berlin, Erfurt, comme directeur notamment du Max Weber College, et depuis 2000, il est professeur invité permanent à l'université de Chicago. En 2014, il était nommé Ernst Troeltsch Honorar Professor à l'université Humboldt de Berlin. À ce titre, il est rattaché à la faculté de théologie protestante. Et Joas est un des interprètes les plus importants du pragmatisme depuis sa thèse de doctorat consacrée à Mead. Avant les pouvoirs du sacré dont on va passablement parler ce soir, il a publié, je prends l'ordre de parution allemande, La créativité de l'agir, Comment naissent les valeurs et comment la personne est devenue sacrée. Des titres qui sont traduits en français, donc, et dans lesquels, appuyé sur le pragmatisme, il développe une théorie du sacré comme expérience d'autotranscendance. Et le dialogue avec James, en psychologie religieuse, et Durkheim, en sociologie de la religion, y joue un rôle tout à fait décisif. Et on peut dire très rapidement que sa perspective combine une théorie de l'action et une théorie du sacré. Alain Thomasset a déjà signalé tout à l'heure les travaux consacrés à la violence et à la guerre. Je pense que c'est important, on les ignore en général en francophonie. Voilà, ils s'inscrivent, ces travaux dans la prise en compte de l'expérience d'autotranscendance. Avec les traumatismes liés à la violence et à la guerre, on a en effet affaire à des expériences dans lesquelles les frontières du soi sont ébranlées et ça oblige l'individu à forger à nouveau frais son identité. Voilà, on a également dit qu'il y avait des travaux classiques en théorie sociale, notamment un titre qui est traduit dans beaucoup de langues, mais pas en français, fait avec M. Knobel, Social théorie, avec un sous-titre modeste, 20 leçons d'introduction, mais c'est l'un des panoramas les plus complets des théories sociologiques. Dernière chose, Joas est un des représentants de ce qu'on appelle la sociologie des religions, mais passant par la sociologie historique. Dans la perspective de Weber, si vous voulez, inaugurée par Weber dans l'éthique économique des religions mondiales. Et dans ce cadre, justement, Joas a développé une critique de la théorie de la sécularisation, vous l'avez entendu dans le sous-titre du livre « Les pouvoirs du sacré ». Alors voilà, je devais donc en deux minutes présenter Joas, mais si j'ai bien compris, en deux minutes, je dois aussi présenter le livre qui est à l'arrière-plan du collectif, c'est ça? Voilà. Alors, donc le livre qui est à l'arrière-plan, c'est « Les pouvoirs du sacré » qui a paru en 2017 en allemand et en 2020 au Seuil en français. Et là, Joas propose une théorie du sacré qui est ordonnée, il y a trois disciplines, l'histoire, la psychologie et la sociologie. Et il approche le sacré dans une perspective qui est ni apologétique, ni accusatrice, disons. Et il y discute de manière serrée Max Weber en montrant les difficultés que pose le grand récit weberien, donc, du désenchantement, qui est trop souvent pris pour argent comptant. Et il le compare d'ailleurs avec l'approche d'Ernst Troeltsch. Il souligne dans ce cadre que le récit weberien est indexé sur une vision de la modernité la voyant comme un produit d'évolution unilinéaire, voilà, à travers la différenciation, la rationalisation et la modernisation, mais donc évolution unilinéaire, c'est ça qui est en discussion ou en cause. Joas s'arrête encore à la période dite axiale, en référence à Jaspers, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure dans le débat, on verra, période qu'il comprend comme une transformation réflexive du sacré à l'enseigne de la transcendance. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Et puis Joas reprend à nouveau frais la question des rapports entre le sacré et le pouvoir, et avec une théorie du sacré qui croise sociologie et psychologie, herméneutique et sciences politiques, et de nouvelles perspectives qui permettent de mieux appréhender la diversité des formes que peut prendre le sacré, sa persistance dans le monde contemporain, voire son regain de vitalité. J'ajoute encore un point dont fait état Joas dans la réplique qu'il a donnée pour le collectif dont on vous a parlé et que nous ne connaissions pas avant, c'est que les pouvoirs du sacré, on a pu penser que c'était un peu une somme des travaux antérieurs, mais en réalité, ce qu'on ne savait pas, mais que maintenant il le dit dans la réplique, c'est que c'est le premier volume d'une trilogie. Il y a un deuxième volume qui a déjà paru en allemand, Im Wankreis der Freiheit, Religionstheorie nach Hegel und Nietzsche, et le troisième est fort avancé, il y a un titre de travail autour de Universalismus, mais non définitif, et donc ce troisième volume est bien avancé, mais pas encore paru. Le deuxième volume, donc pour y revenir, de cette trilogie, il tente de réfuter le second grand récit de l'histoire des religions, de celui de Weber, qui est au centre donc des pouvoirs du sacré, et ce second récit, c'est celui qui remonte à Hegel, pour qui l'histoire de la religion culmine dans une forme suprême, le christianisme, et l'histoire du christianisme culmine dans une forme suprême, qui est le christianisme protestant. Donc voilà, le christianisme protestant comme une forme, chez Hegel, historiquement indépassable de l'institutionnalisation de la liberté dans l'état de droit, et dans la ligne des réformes du début du 19e. Alors de même que les pouvoirs du sacré développent une possible alternative au récit weberien, le deuxième volume aborde les déficits fondamentaux du récit de Hegel, en accordant une forte attention aux alternatives qui étaient déjà existantes à ce récit, alternatives post-hegéliennes et qui vont jusqu'à Nietzsche. Voilà. Alors, dit brièvement, le récit de Weber conduit à considérer la sécularisation dans les termes d'un affaiblissement de la religion, un processus à l'œuvre dans la tradition juive, puis chrétienne, en référence à la lutte des prophètes. On choisit dans l'ensemble de ces traditions des points forts qui sont mis en exergue et on oublie les autres. Donc, en l'occurrence, la lutte des prophètes contre la magie. Le récit historique de Hegel, lui, il fait voir la religion comme un danger pour la liberté politique, à l'exception justement de sa forme dans le christianisme protestant. Voilà. Et l'alternative à ces deux narratifs consiste pour Joas en une histoire globale de l'universalisme moral. Et je pense que le débat tout à l'heure va vous en dire plus.
Merci beaucoup Pierre pour ce résumé acrobatique, parce que résumer une pensée comme ça, c'est quand même très compliqué. Donc merci de cette introduction, de ce rappel pour certains qui peuvent connaître. Je donne tout de suite la parole à Madame Aurore Dumont, donc professeure de philosophie. À partir de son expérience d'enseignante dans le secondaire, elle pourra aussi commencer à donner des réactions à ce livre. Merci.
Messieurs, dames, bonsoir. Monsieur le professeur Antsuras, bonsoir de nouveau. Si vous le voulez bien, je vais vous adresser quelques questions à partir de mon expérience de terrain, c'est-à-dire une expérience de professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire. Cela me permettra d'adresser quelques questions à votre travail sur la religion en discussion avec l'ouvrage collectif Le Sacré en question, dont Pierre Gisèle vient de parler à l'instant et qui vous rend un vigoureux hommage. Au lycée, la définition de la religion engage une réflexion souvent sur la nature de l'expérience religieuse, sur le fait de savoir si elle est une expérience personnelle ou un phénomène social. Peut s'en suivre un questionnement sur la légitimité de la place de la religion dans le champ du politique et du social. Je laisserai de côté les deux autres interrogations classiques, qui sont celles du rapport entre la foi et la raison, et celles du lien entre religion et morale, bien qu'elles soient abordées également dans votre œuvre, en particulier la foi comme option. Repartir de ces entrées scolaires permettra peut-être au grand public présent ce soir d'entrer progressivement dans une œuvre qui modifie en profondeur le paradigme à partir duquel la place de la religion dans nos sociétés est encore trop souvent abordée. Mais peut-être aussi que, surtout d'ailleurs, ces questions scolaires permettront de dissiper différents malentendus possibles en raison de la naïveté assumée des questions que je vais vous adresser. Dans ce cadre, deux thèmes de votre œuvre retiendront mon attention. Tout d'abord la relation entre la religion et le sacré, et ensuite celle entre l'autotranscendance et la capacité d'agir. Tout d'abord le sacré en question. Le sacré occupe une place à part dans la compréhension du phénomène religieux. D'une part, il n'est pas l'absolu, Il ne renvoie ni vers l'inconditionné, ni vers l'éternité. Et si la transcendance en est le ressort, c'est au sens où elle permet une sortie hors de soi de celui, sujet ou collectivité qui en fait l'expérience. Dans une perspective sociologique, c'est par le sacré que le phénomène religieux peut être circonscrit. Émile Durkheim a défini en effet la religion dans les formes élémentaires de la vie religieuse comme, je cite, « un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent ». Fin de citation. Noyau de la religion, comprise comme un phénomène social et expérience collective, le sacré peut néanmoins déborder la religion, tant il peut prendre différentes formes, le parti ou une idéologie politique. Le sacré s'avère ainsi dynamique et d'intensité variable. Or, la sacralisation est un processus qui interroge. En effet, si c'est le sacré qui fait la religion, cela ne signifie-t-il pas que tout peut devenir à part, séparé, y compris les valeurs de la République? Le transfert du sacré que vous abordez dans votre livre répond, je crois, positivement à cette question. Mais alors, question typiquement française, que peut bien signifier la laïcité à la française si ce principe tend à devenir une valeur à part, donc sacrée? N'est-ce pas une religion comme les autres que l'on finit par imposer sous couvert de neutralité politique? Et si la laïcité est une solution pour pacifier les conflits entre le religieux et la politique, comment la catégorie de sacré en a-t-elle le pouvoir? Autrement dit, le sacré peut-il nous aider à mieux comprendre et faire comprendre la laïcité à nos élèves? D'autre part, l'expérience du sacré n'est pas qu'individuelle, elle s'inscrit dans des cadres sociaux qui la rendent possible. Parler de religion, c'est alors interroger une fonction à partir de laquelle le social s'institue au moyen de certaines valeurs. C'est aussi s'interroger sur la productivité morale, voire politique, des valeurs religieuses. Le terme d'église choisi par Durkheim fait quelque peu glousser les élèves qui y voient une conception chrétienne masquée de la religion. D'où la question, le christianisme ne reste-t-il pas toujours, même chez les meilleurs interprètes du sacré, la forme religieuse qui sert en filigrane de référence à la réflexion? Avec le concept de sacré, ce sont des abîmes de perplexité qui s'ouvrent quant à la question de savoir ce qu'est une société, ce dont elle procède, son possible ou impossible lien avec une dimension religieuse constitutive, même de manière détournée, d'une capacité à vivre ensemble et à faire communauté. À cela peut s'ajouter, si l'enseignant ne manque pas d'audace, le fait que les monothéismes ne se définissent pas par eux-mêmes par cette sacralité. Après tout, ce qui caractérise Dieu, n'est-ce pas la sainteté qui débute par la sanctification du nom, tant dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne, ainsi que la prière du Notre Père le rappelle? Dès lors, quel est ce sacré à partir duquel l'être humain fait l'expérience de la transcendance? Et de quelle nature est cette transcendance si le sacré ne concerne pas, au moins en judaïsme et en christianisme, Dieu lui-même? Après tout, il n'y a pas si longtemps, cette catégorie donnait lieu à des critiques qui semblent aujourd'hui avoir disparu de sa réception. En particulier celle-ci. N'est-ce pas une régression dans la compréhension du phénomène religieux, de nature monothéiste par exemple, que d'utiliser une catégorie provenant du paganisme? Englober dans la religion dans le sacré, n'est-ce pas oublier ce qui fait la nouveauté des religions monothéistes, à savoir l'importance accordée à la sainteté? Et enfin, puisque le transfert de sacralité d'un ordre à un autre est possible, ainsi que l'enseigne par exemple le passage de l'Église au parti, qu'est-ce que cela dit de la constitution du social en général? Deuxième série de questions, si vous le voulez bien, professeur. Le lien entre religion et politique. Quand il s'agit de considérer la place de la religion dans le champ social et politique, plusieurs difficultés naissent du rapport entre religieux et politique. Celle de la fondation, celle du transfert, celle de la violence, celle de la justice et celle de la liberté religieuse. Dans ce cadre, la religion saisie à travers le double prisme de la théorie de la sécularisation et de la modernité est le plus souvent vue comme une menace pour la sphère politique et un frein à l'amélioration des conditions matérielles de l'existence individuelle et collective. Qu'elle puisse être un facteur nécessaire à la constitution du lien social, en raison notamment d'un rapport à la transcendance, échappe. En mettant l'accent sur le sacré, il me semble que vous déplacez les problèmes. En effet, constitutif de l'expérience humaine et des sociétés humaines, le sacré est un phénomène universel, alors que la religion n'est qu'un phénomène, une forme parmi d'autres du sacré. Là où la religion est une option parmi d'autres, dans l'âge séculier, le sacré n'en serait donc pas une ? Mais est-ce vraiment le cas ? Les pouvoirs du sacré s'inscrivent en effet dans une démarche où la religion trouve sa place dans une histoire du pouvoir. La religion s'insère dans une théorie de l'action en intervenant comme un facteur de motivation, car il me semble que vous pensez le sacré dans le cadre d'une anthropologie de l'agir humain. En ce sens, votre travail me semble consonner avec celui de Paul Ricoeur. Le sacré est le nom donné à un mode d'expérience qui appartient à la créativité de l'agir humain. Il exprime la capacité humaine d'agir en situation, c'est-à-dire dans un contexte marqué par la contingence. Il n'est pas coextensif à cette capacité, mais inhérent. Il est l'une des expériences fondamentales par lesquelles le sujet crée sa place dans le monde et interprète cette place. Le sacré s'avère donc inséparable d'une théorie de l'action, il est pour le sujet qui s'y rapporte une motivation. Subjectivité et agentivité sont liées par lui. Il offre au sujet une grammaire qui lui permet de ne pas demeurer enfermé dans l'immanence et ses contraintes. N'est-ce pas là un point qui vous rapproche du théologico-politique de Paul Ricoeur, qui demande à être pensé dans le cadre de son herméneutique et de la théorie du sujet qu'il développe dans temps et récit, mais aussi dans soi-même comme un autre ? Tout comme le soi se refigure par le moyen des écritures, l'agent se refigure par le moyen d'une transcendance qui lui fournit un horizon d'action qui dépasse de beaucoup les contingences d'une société donnée à un moment donné. Chez vous, comme chez Paul Ricoeur, la définition du sujet s'avère-t-elle dépendante de la médiation des symboles de la culture, et notamment des symboles religieux ? Une telle conception du sacré n'implique-t-elle pas une conception renouvelée du sujet ? D'où la question naïve, mais qui est le sujet du sacré qui a pour ressort une expérience de transcendance ? Est-il un soi, toujours en excès sur lui-même, ou bien autre chose ? Sans expérience d'autotranscendance, y a-t-il un sujet de l'action ? Qu'est-ce qui distingue, si tant est qu'une telle distinction soit pertinente, bien sûr, entre le sujet de la religion et celui du sacré ? Quel rôle jouent par exemple les écritures dans la possibilité d'une expérience d'autotranscendance ? Plus largement, une société peut-elle évoluer vers plus de justice en l'absence de telles expériences ? Vecteur d'utopie, le sacré rend l'être humain capable d'agir et d'espérer en dépit des contraintes. Mais alors, cela n'implique-t-il pas l'existence de ces communautés interprétatives que l'on appelle Église ? De ces communautés où s'exerce sur le mode d'une conflictualité régulée, une interprétation où se joue d'abord et avant tout la capacité humaine de former des alliances, des pactes et des institutions. Mais de cette manière, ne retombe-t-on pas sur une approche christiano-centrée qui laisse de côté non seulement les communautés où son genre d'herméneutique n'a pas cours, mais aussi d'autres modèles d'interprétation. Pour finir, le sacré est aussi un terme porteur d'une asymétrie avec ce qui, pour bien de nos contemporains, caractérise l'existence d'une religion, un être supérieur dont le nom est saint. Si étymologiquement sacré et saint désignent une même réalité, les deux termes finissent néanmoins par se séparer. Mais alors, le sacré suffit-il à régler la question de la présence de Dieu et de sa place dans nos sociétés ? Et d'ailleurs, est-ce sa fonction ? Ne vient-il pas plutôt préciser l'impossibilité de concevoir le politique en dehors de toute transcendance, ce que le titre de votre ouvrage, « Les pouvoirs du sacré » pourrait suggérer ? Merci de m'avoir écouté, monsieur le professeur.
Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Joas réagira à la fin des trois interventions, comme ça vous pourrez reprendre comme vous voulez. Je laisse la parole donc à Marc Boss, maintenant professeur d'éthique à l'Institut Professeur de Théologie.
Ça va. Oh, voilà. Il est toujours périlleux, je crois, d'aborder l'œuvre d'un auteur en lui appliquant le théorème romantique selon lequel le fragment serait au système ce que le microcosme est au macrocosme. Dans le cas de Hans Joas, il serait particulièrement peu avisé de considérer les livres qui composent son œuvre comme autant de fragments qui reflètent en miniature la totalité d'un système. Non pas que l'œuvre de Joas soit dépourvue d'ambition systématique, mais ses livres ne sont pas des variations sur un thème inlassablement retravaillé. Il couvre un si large spectre de sujets d'enquête qu'il est difficile au lecteur d'embrasser du regard la multiplicité des champs d'études investis et l'ensemble des disciplines convoquées et combinées à cet effet. Difficulté accrue du fait que l'auteur n'a pas dit son dernier mot et que l'œuvre est encore en chantier, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. C'est l'un des grands mérites de l'ouvrage collectif autour duquel nous sommes réunis ce soir, d'avoir permis à Hans Joas de lever un certain nombre de malentendus suscités par des lectures trop partielles de son travail. Si Joas salue les efforts des contributeurs qui ont cherché à comprendre les pouvoirs du sacré selon les règles de l'art herméneutique, c'est-à-dire en lisant ce livre de 2017 à la lumière d'une série de travaux plus anciens, il souligne cependant qu'il n'a pas conçu les pouvoirs du sacré comme une somme de ses travaux antérieurs, mais comme le premier volume d'une trilogie dont seule la totalité pourra prétendre à ce statut. Je vous cite. Il m'est difficile de ne pas éprouver une curiosité qui confine à la fascination devant cette trilogie du futur qui s'annonce comme la somme récapitulative des travaux antérieurs de Hans Joas dans l'auto-interprétation qu'il en donne. D'autant que le futur entrevu en 2017 est désormais bien entamé et que le voile sur les contenus de la trilogie est déjà en partie levé. Le deuxième volume apparu en 2020 sous le titre « Im Bannkreis der Freiheit, Religionstheorie nach Hegel und Nietzsche », ce qui pourrait se traduire par « Le charme de la liberté, la théorie de la religion après Hegel et Nietzsche ». Comme le note Robert Norton dans une recension parue en 2021 dans les archives européennes de sociologie, Im Bannkreis der Freiheit rend plus évident que jamais le fait que Joas considère tous ses livres comme des briques dans la construction d'un vaste édifice qui trouve sa cohérence dans l'effort continu d'écrire une histoire alternative de la modernité. Le troisième volume de la trilogie n'est pas encore achevé. Il a pour titre provisoire « Universalismus Weltherrschaft und Menschheitsethos », ce qu'on pourrait traduire tout aussi provisoirement par « universalisme, domination mondiale et éthique de l'humanité ». Vous nous direz s'il faut peut-être y voir une allusion au Weltethos de Hans Küng. Pas du tout. D'accord. Dans sa réplique au contributeur de l'ouvrage « Le sacré en question », Hans Joas souligne que dans les deux premiers volumes de sa trilogie, les discussions critiques les plus décisives portent respectivement sur le narratif de Max Weber et sur celui de Hegel. Voici comment il résume l'enjeu de leur confrontation dans le dispositif d'ensemble de sa trilogie. Pour le dire brièvement, le récit de Weber conduit à considérer la sécularisation comprise dans les termes d'un affaiblissement de la religion comme un processus à l'œuvre dans la tradition juive puis chrétienne depuis la lutte des prophètes contre la magie. Le récit historique de Hegel fait voir la religion comme un danger pour la liberté politique, à l'exception d'une seule forme de religion, le christianisme protestant, qui apparaît carrément constitutif pour la liberté politique. L'alternative à ces deux narratifs extrêmement influents, même s'ils ne sont naturellement pas les seuls, consiste en une histoire globale de l'universalisme moral, tant dans ses formes religieuses que séculières. C'est ce dont traitera le troisième volume. Fin de citation. C'est peu dire que j'attends avec impatience cette synthèse des synthèses que promet le troisième volume de la trilogie, avec son projet d'offrir une histoire globale de l'universalisme moral dans un narratif alternatif à celui de Weber comme à celui de Hegel. Pour l'heure, il faut toutefois s'en remettre aux versions, certes encore provisoires mais déjà très élaborées, de ce troisième narratif tel qu'on peut le trouver dans les travaux de Joas, spécifiquement consacré à la généalogie des droits humains, ainsi que, ça nous concerne plus directement ce soir, dans le dernier chapitre des pouvoirs du sacré, en particulier dans la section finale intitulée « Une esquisse historique » et dans le très court texte intitulé « Une conclusion normative » qui clôt à la fois le chapitre et l'ensemble de l'ouvrage. Dans sa contribution à l'ouvrage « Le sacré en question », Catherine Colliot-Hellen propose une discussion critique de ces pages finales des pouvoirs du sacré et Hans Joas lui répond dans le même ouvrage. J'aurais aimé que les deux protagonistes de cette discussion puissent prolonger leur passionnant échange devant nous ce soir, mais comme vous le savez certainement, Catherine Colliot-Hélène est tragiquement décédée en mai dernier. Je vais donc rappeler les termes de la discussion dans une présentation aussi descriptive que possible. La confrontation principale entre les deux auteurs ne porte pas, comme on aurait pu s'y attendre, sur la critique des grands paradigmes interprétatifs à l'œuvre dans la réception de Max Weber, dont Catherine Colliot-Hélène est une éminente spécialiste. S'agissant du désenchantement du monde aussi bien que du procès de rationalisation occidentale, écrit-elle, je souscris à la plupart des objections critiques de Joas. Comment explique-t-elle alors l'intérêt central qu'elle porte à Weber ? Les textes de Weber qui retiennent l'attention de Catherine Colliot-Hélène sont les essais méthodologiques dans lesquels il développe une critique des philosophies de l'histoire et de toutes les variétés de l'évolutionnisme. Dans ses essais des années 1900, Weber avait pour objectif principal, dit-elle, d'émanciper l'explication socio-historique de tout présupposé quant au sens général de l'histoire. Dans cette lecture de Weber, dont Catherine Colliot-Hélène assume ouvertement le caractère sélectif, l'étude comparative des cultures ou des civilisations permet tout au plus de faire apparaître des différences conceptuellement intéressantes, car, je cite, « utiles à la construction des idéal types, mais elle ne permet pas d'écrire une histoire de l'humanité ». Aussi reproche-t-elle à Joas de substituer au narratif du désenchantement du monde un autre narratif qui identifie dans l'histoire des religions un tournant décisif qui donne une forme d'unité à l'ensemble de l'histoire humaine. Catherine Colliot-Hélène craint que ce programme ne soit l'expression d'une représentation du monde dans laquelle l'Europe occupait encore une place centrale. Elle comprend que cette représentation ait pu s'imposer comme une quasi-évidence culturelle au tournant du XXe siècle, mais elle doute qu'elle puisse encore se défendre à notre époque où, dit-elle, la provincialisation de l'Europe est largement avancée. Aussi croit-elle préférable de renoncer à trouver une forme d'unité dans l'histoire des sociétés humaines, car elle ne voit guère, dit-elle, comment une telle histoire universelle pourrait ne pas être tributaire d'un point de vue particulier et portée par là même à établir une hiérarchie, même très atténuée, entre les civilisations humaines. La solution alternative à cette histoire universelle, Catherine Colliot-Hélène croit pouvoir en trouver l'esquisse chez Weber. Je cite le paragraphe conclusif de sa contribution. Une fois écartées les notions de désenchantement et de rationalisation, on peut trouver dans les écrits de Weber des ressources pour concevoir un usage sociologique des savoirs historiques prémuni contre les tentations de l'histoire universelle, un savoir comparatiste qui s'attache aux différences sans chercher à les ordonner dans un récit unitaire. Un tel savoir pour lequel il me paraît plus adéquat de parler de comparatisme transculturel plutôt que d'histoire globale n'a pas de fil conducteur permettant de trouver un semblant de sens dans le chaos de l'historicité humaine. Mais il peut mettre en évidence des séquences de développement similaires à des époques et dans des lieux très différents qui produisent des effets d'intelligibilité. Renoncer à une appréhension globale de l'histoire de l'humanité n'implique pas de renoncer à comprendre quoi que ce soit dans les histoires des sociétés humaines. Dans sa réplique à Catherine Colliot-Hélène, Hans Joas distingue dans ce paragraphe conclusif le véritable point de divergence entre eux, dans la mesure où elle conteste la possibilité logique de faire tenir ensemble une compréhension de la contingence propre à toute histoire et la visée d'une histoire universelle. Joas défend cette possibilité à partir de sa lecture de Paul Ricoeur, et plus particulièrement d'une démarche que Ricoeur élabore dans « Temps et récits ». Cette démarche que Joas place au cœur de son projet consiste à saisir du regard, je le cite, « à saisir du regard toute l'histoire de l'humanité et sa compréhension de l'humain, sans tenir pour acquis le progrès normatif en direction d'un universalisme moral ». Dans cette démarche, dit Joas, l'universalisme moral ne se laisse appréhender que dans des formes particulières, et l'étude de son histoire devra par conséquent rendre justice à ses particularités, mais elle ne devra jamais, je cite encore, perdre des yeux la question normative de l'universalisme moral. Cette démarche de Hans Joas est-elle radicalement irréconciliable avec celle que préconise Catherine Colliot-Hélène ? Je me garderai bien de jouer ici les arbitres entre les deux auteurs, d'autant que j'incline probablement trop à donner raison à Joas pour être un arbitre impartial dans cette affaire. Il me semble toutefois que le point de divergence que les deux auteurs s'accordent à placer au centre de leur discussion concerne une question relativement claire. Peut-on raconter une histoire universelle de l'humanité au singulier, ou ne peut-on raconter que des histoires particulières au pluriel? Mais cette question centrale me semble parasitée par des questions périphériques. Celle du statut épistémique de la normativité dans le discours historique ou sociologique. Celle de la légitimité d'une hiérarchie entre universalisme moral et particularisme moral, avec en prime la question subsidiaire de savoir qui sont au juste les particularistes. S'agit-il de ces enfants dont Musil disait qu'ils sont toujours prêts à tenir pour la première du monde la famille Y de la rue du Grand X, pour peu que le hasard en ait fait leur propre famille? Ces particularistes naïfs ne sont-ils pas des universalistes qui s'ignorent? D'un autre côté, que seraient des particularistes réflexifs, si ce n'est des romantiques en quête d'un universalisme concret, plus authentiquement universel que l'universalisme abstrait des Lumières? Et question subsidiaire à la question subsidiaire, à laquelle de ces deux catégories appartiennent les cultures présumées archaïques ou traditionnelles, dont on craint qu'elles ne soient infériorisées ou discriminées par la hiérarchisation entre universalisme moral et particularisme moral. Et permettez-moi d'évoquer un dernier point encore qui m'apparaît comme un possible angle mort dans la discussion entre Hans Joas et Catherine Colliot-Tellen. L'essentiel de la discussion porte sur la question de savoir s'il est possible de proposer une histoire universelle de l'humanité au service d'un universalisme moral. Mais j'aurais tendance pour ma part à scinder cette question en deux. Est-il possible de concevoir un universalisme moral? Serait la première. Cet universalisme a-t-il besoin d'un récit? Serait la seconde. À la première question, je répondrai oui sans hésiter. À la seconde, je répondrai à la question par d'autres questions. S'il faut un récit, qui doit l'écrire? Les sociologues? Les historiens? Les universitaires de façon générale? Les responsables politiques? Les pouvoirs publics? Ne vaudrait-il pas mieux confier la justification des normes partagées à une forme ou une autre de consensus par recoupement, en laissant à chaque communauté de conviction le soin et la liberté de cultiver son propre narratif? Sans doute soupçonnerez-vous la question de contenir sa réponse, et vous n'aurez pas tout à fait tort. Et je conclue donc là-dessus. Merci de votre attention.
Voilà, je laisse maintenant la parole à Jean-Marie Donegani pour la troisième intervention en écho à ce livre et aux travaux de Hans Joas.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier d'abord, avant toute chose, Alain et Pierre de m'avoir invité à cette discussion, car cette lecture des travaux du professeur Joas m'a largement inquiété. Oui. Bougez, fait bouger. Au fond, vous avez, dans ces quelques livres déjà écrits et les quelques autres dont nous entendons déjà les bruissements, décidé de reprendre toute la théorie de notre histoire. Je dis théorie de notre histoire. Oui, il faut parler plus fort, c'est ça. Je dis toute la théorie de notre histoire parce que la sécularisation, ce qu'on appelle la sécularisation, on ne sait jamais si c'est un phénomène ou une idée sur le phénomène. Et au fond, je retrouve exactement cette manière de traiter l'affaire dans différents étages, dans différents étages de votre travail. Par exemple, vous dites très clairement, à un moment donné, je ne cherche pas les références parce que vous allez vous retrouver, vous me croyez de toute façon, dans ces lieux, personne ne ment, n'est-ce pas, que vous avez écrit que la sécularisation, autrement dit la modernisation, les deux concepts se touchent, était quelque chose qui, comment dire, non pas qui n'était pas indispensable, mais qui n'était pas une manière juste de parler de notre histoire, parce que la place de la religion dans cette histoire n'est pas la bonne. Est-ce que je me tromperai? Bien. Et oui, c'est un débat, n'est-ce pas? Il me semble que si la sécularisation, la théorie de la sécularisation est devenue notre histoire occidentale, l'histoire de nous, c'est parce que nous avons rencontré un problème, nous les Occidentaux. On a rencontré un problème à un moment donné, c'est la perte de l'unité de la foi. Il y avait un moment où nous avons eu affaire avec le pluriel. Et en matière de religion, le pluriel, quand on a goûté au charme du monothéisme, évidemment, le pluriel pose problème. Eh bien, je pense que la théorie ou le théorème de la sécularisation est une manière de traiter cette question du pluriel. Et vous savez qu'il y a deux voies qui s'offrent. Il y a la voie de la guerre ou la voie de la paix. Il y a la voie des libéraux et il y a la voie des anti-libéraux. Il y a la voie de Carl Schmitt, qui cherche au fond à revenir à l'essence de la politique, c'est-à-dire cette division essentielle entre amis et ennemis. Et puis, cette intuition des libéraux qui estiment que, eh bien, s'il y a du pluriel, on va faire avec, c'est très bien comme ça, et pour éviter la guerre, on va privatiser le religieux. Mais lorsque le magistère romain nous dit « Ah, la privatisation du religieux, c'est une manière de considérer, de le dévaluer. » Mais au contraire, hein, il me semble que si on privatise le religieux, c'est pour dire « C'est tellement important qu'on va le soustraire, ce religieux, cette foi. On va la soustraire à la discussion. » Mais vous voyez qu'ici, il y a le choix d'une interprétation de l'essence du libéralisme. Et c'est le libéralisme qui est l'acteur principal, ici. Souvenez-vous de ce mot, je crois que c'est de Michael Fussell qui disait que le libéralisme, c'est l'anthropologie de la lassitude. C'est-à-dire un moment où des gens se disent, on en a assez de donner notre vie à des idéaux qui paraissent très compliqués et très diviseurs. Restons tranquilles, chacun chez soi. Autrement dit, c'est une idéologie de la médiocrité. Une idéologie de la médiocrité parce que c'est une anthropologie de la paix. Contrairement aux grandes, théories beaucoup plus dramatiques, comme la théorie de Schmitt. Alors, pour revenir à ce que je disais à l'instant, si on considère que cette modernité se confond avec l'idée de sécularisation qui est elle-même une manière de traiter la question du pluriel, dans un domaine où il est difficile à concevoir, eh bien, je ne vois pas, c'est là que je voulais en venir, comment on peut se passer. On peut réfléchir sans ce théorème de la sécularisation. Comment peut-on faire pour penser cette histoire hors de ces catégories-là? Ces catégories, vous voyez, ce à quoi elles font référence, c'est à un certain nombre de notions qui décrivent très bien comment nous vivons, comment nous pensons. L'idée de séparation entre les sphères d'activité et de savoir, qui est subsumée ensuite par la séparation entre sphère privée et sphère publique. Vous voyez bien à quoi ça sert. C'est tout une série de boucliers. Ne soyons pas contaminés les uns par les autres. Il y a des règles dans chacune de ces sphères, et aucune de ces sphères ne doit être contaminée par une autre, et évidemment surtout par la religion. La religion, c'est plus qu'une sphère d'activité et de savoir, au lieu d'être celle qui embrasse la totalité du monde, l'intégralisme. Et je pense que vous allez me répondre très librement et négativement peut-être que le professeur Joas considère que la religion est naturellement intégraliste. Oui. Alors je vais vous donner une citation pour essayer. Vous dites à un moment donné, attendez, il faudrait que tu vois clair, ça arrangerait les choses. Lorsque vous dites que, par exemple, personne ne peut nier un déclin de la religion dans plusieurs pays européens, mais l'explication conventionnelle de la sécularisation, à savoir qu'elle serait simplement le résultat de la modernisation, me paraît avoir perdu la plus grande partie de sa plausibilité. Ça, on est d'accord, c'est sur la première partie de la proposition. La seconde partie de la proposition, c'est lorsque vous définissez vous-même ce que vous considérez comme étant... est-ce qu'on peut parler comme ça? Comme étant l'essence de la religion, l'essence de la religion étant quelque chose qui doit irriguer toute la vie. La religion n'est pas une sphère à part. Ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, un champ d'activité de savoir au même titre que l'économie, la politique, etc. Non. Eh bien ça, parler comme ça, c'est considérer effectivement, et c'est une conception tout à fait valable, hein, mais que la religion n'est pas spécialisée. La religion, ça a quelque chose de... d'instinctivement holiste, parce que c'est le tout de la vie des sociétés et des individus en même temps qui est concerné par cette approche des réalités. Eh bien, je voulais dire que c'est parce que, me semble-t-il, vous considérez et vous en avez entièrement le droit, vous considérez, la religion avec cette optique intégraliste que vous pouvez lire pour le reste.
Deux choses différentes.
D'accord. Donc on va en reparler. Je trouve par exemple que lorsque, à partir de la modernité pluraliste, on trouve comme conséquence immédiate de cette nouveauté, la nouveauté c'est le pluralisme, eh bien la nécessité du subjectivisme et du relativisme, puisqu'il n'y a plus de critères objectifs qui est accepté par tous les protagonistes, eh bien ça veut dire que l'enjeu de la décision, le point le plus aigu de ce qui fait, ce qui donne le sens de la vie aux individus et à la société, il est confié finalement à l'interne. Il est laissé à la liberté. Et donc je pense que cette manière de faire est congruente avec la manière dont au départ on a posé le problème du pluralisme. C'est congruent avec cette manière de poser la question du pluralisme. Mais si on pose la question du pluralisme d'une autre manière, alors effectivement, tout ce qui vient avec le théorème de la sécularisation s'effrite, enfin devient impertinent. Donc ce sur quoi je vais terminer, c'est sur la nécessité peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, de revenir à un certain nombre de théologiens de cette modernité et de cette conception de la religion en modernité. Donc je pensais d'abord à évidemment Bonhoeffer, qui est le premier à avoir considéré que le christianisme n'était pas une religion, n'est-ce pas? Parce que le christianisme ne repose pas sur la toute-puissance de Dieu, ne repose pas sur le Deus ex machina, Et cette manière d'être au monde, qu'on appelle le christianisme, nous éloigne de la religion en termes d'intégralisme et de toute puissance. C'est la même chose aujourd'hui avec un auteur qui est quand même assez intriguant, je trouve, qui est Caputo, qui, me semble-t-il, de manière assez claire, pose le problème de la conscience religieuse dans ce monde en termes de réponse à l'impuissance de Dieu, à l'impuissance proclamée de Dieu, à l'impuissance que Dieu assume de montrer au monde, eh bien le christianisme serait la réponse à cette manifestation de l'assomption de l'impuissance divine. Vous vous souvenez de cette discussion autour des versets 26 et 27 de la Genèse, image et ressemblance. L'homme, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance, et vers 27, il n'y a plus que l'image, sans doute parce que la ressemblance revient à l'homme. Eh bien, c'est sur des petits détails de ce type que des théologiens comme Bonhoeffer ou Caputo reprennent langue, je dirais, avec le Dieu de la sécularisation. C'est-à-dire ce Dieu qui s'est retiré volontairement, tout en n'abandonnant pas. Alors le retrait sans abandon est une manière sans doute difficile d'être, mais je crois que c'est la pointe de ce que ces théologiens nous présentent comme horizon d'attente de la sécularisation. Donc pour finir, je voulais simplement vous demander s'il vous paraît possible, au fond, de construire, de continuer à construire cette œuvre assez impressionnante qui est la vôtre, en gardant de la théorie de la sécularisation quelque chose comme cette notion de religion qui ne serait pas intégrale, effectivement. Vous voyez, cette religion qui traverse tous les savoirs humains, toutes les activités humaines, sans former pour autant une sphère compacte avec des autorités, avec des membres, avec des pratiques spécifiques. Si on saisit le religieux comme ça, vous voyez bien qu'on ne considère plus, me semble-t-il, la sécularisation comme une disparition du religieux, ou même comme un affaiblissement du religieux. C'est Talcott Parsons qui, dans les années 50, disait que le paradoxe de la modernité séculière, c'est que le religieux pouvait être partout, par l'intermédiaire évidemment des formes internes. Voilà ce que je voulais vous proposer comme réflexion et élément de discussion. Merci.
Merci bien. Voilà, il y a des questions assez différentes qui vous sont posées. Il y en a beaucoup, j'imagine que vous ne pourrez pas répondre à tout, mais
voilà, je vous laisse la parole.
Et je pense que j'ai besoin de plus de 10 minutes, parce que c'est une liste très longue. Oui. Je vais discuter les trois interventions dans l'ordre de présentation. Je commence avec Aurore Dumont. Premier point, vous demandez si l'expérience religieuse est une expérience personnelle ou un phénomène social. Je pense que c'est une dichotomie fausse. Il y a des phénomènes d'expériences religieuses qui sont extrêmement individuelles. il y a des théoriciens qui se concentrent sur les phénomènes extrêmement individuels, par exemple William James, qui disait « Je suis exclusivement intéressé dans les phénomènes religieux des hommes in their solitude, quand ils sont... » How would you translate in their solitude?
Solitude.
Solitude. Yeah. Ou, par exemple, chez Émile Durkheim, où les phénomènes religieux...
Non, ça va, ça va. C'est juste pour l'État.
Ah bon.
Où les phénomènes religieux sont exclusivement collectifs, par ainsi dire. Certainement... quand il écrit sur le totémisme australien. Mais je voudrais dire les phénomènes individuels, les phénomènes collectifs, et beaucoup de choses, par exemple, may I speak English? Yes, okay. So, purely individual phenomena, purely collective phenomena and everything in between. There can be religious experiences in small groups, in a couple. And let's say, I mean, sexuality may have a quasi-religious or spiritual dimension in a couple, for example. So I would not accept that alternative, so to speak. And I would add, in the country of Durkheim again, that even the most individual phenomena have a social character. I mean, that was his ambition when he studied suicide. For, let's say, from a naive point of view, you think to commit suicide is the most individual decision in the world, but then he demonstrates that this is a social phenomenon, how many people commit suicide in this confession, or in the other one, or whatever. Okay. Second point is very important for the understanding of my whole approach, and it may be that you neglected that. Namely that the terms self-transcendence, auto-transcendance, and transcendence are totally different. Maybe that was an unhappy decision I made in 1996, but now it's difficult to retract it. So, self-transcendence is a purely descriptive psychological notion. Has nothing to do with metaphysics and religion. The meaning is human beings have a self with symbolic boundaries around the self, and they undergo certain experiences where they have the feeling, the impression, that the boundaries around their self suddenly breaks open. I sometimes use as an example falling in love. When you fall in love, you are no longer this closed being, so to speak, because you are opened by the attraction of another human. You open yourself, but I don't like to say open yourself because that sounds like a decision, so to speak. Yeah? You feel being opened, so to speak. Something happens to you that opens you. Yeah? And this, in many other phenomena, so this is the experience of self-transcendence. Transcendence.
L'explosion des frontières du...
Yes, exactly, exactly. That's what I mean. I say, for example, in the book that has recently come out in French, Comment naissent les valeurs, que nous avons besoin d'une phénoménologie riche de ces expériences, parce que tomber en amour, c'est seulement un tel phénomène, et un autre, par exemple, fusion with nature. An oceanic feeling or something like that. It's also a breaking open of the symbolic boundaries. But this, I mean, perhaps I shouldn't say has nothing to do with religion, because of course it has a lot to do with religion. But whether you are religious or not,
you know what falling in love means and what fusion with nature means. Yeah? So as such, we shouldn't call this religious. It is behind religious phenomena, but it is accessible also to people who are not religious. You know, I could tell you that very often colleagues, for example, in the highly secularized atmosphere of sociology departments, say to me, you have certain experiences, and you write about them, that I simply do not have. So I cannot read what you write because I have no access to that. And then my response, my routine response is to say, well, that's wrong. If you talked to me, I would show you that you have these experiences. Because I'm not talking about the experience of, let's say, taking part in a religious ritual, but the experience of self-transcendence. Transcendence is it's not a descriptive psychological concept. It's a metaphysical concept that there is a fundamental distinction between everything mundane and something different. Again, for the purpose of illustration, I sometimes say, when Jesus said, my kingdom is not of this world, people understand that there must be something that is not of this world. Otherwise, they would have said, what is he talking about, so to speak? Yeah? So not of this world must have a certain meaning. And it can have that meaning only if you assume that there is a fundamental distinction between everything on earth or in the cosmos, yeah, and something else that you can metaphorically call in heaven, for example. But it's clear that this is a metaphor. I mean, all these famous stories from East Germany that when Yuri Gagarin, that the Communist Party said, now this is the definitive proof that there is no God, nothing in heaven. This is, of course, ridiculous, because it only takes the metaphorical expression and not the true meaning of transcendence. So that's also...
Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça va? Ou est-ce qu'il faut traduire? C'est bon? Un petit peu? Ouais, l'autotranscendance, vous voyez, c'est le débordement du soi dans une expérience où on se sent... il y a un débordement de la frontière du soi, voilà, dans l'expérience d'être amoureux, dans la fusion avec la nature, par exemple, qui peuvent être des expériences séculières, pas forcément religieuses. Et puis la notion de transcendance, qui est au contraire la conception métaphysique, qui comprend qu'il y a quelque chose d'autre que la réalité terrestre, séparé de la réalité terrestre.
And one could say, of course, not just somewhere else, but fundamentally different in the sense of the location of what is truly good. Because we don't simply think about, in the tradition of religions that have a strong understanding of transcendence, we do not simply think that God or divine beings are like us, just far away, on the top of the Mount Olympus or something. Yeah? But we really think it's fundamentally different. Yeah? The good is concentrated. Yeah? God is exclusively good and is located in this transcendent realm. Yeah? Now, perhaps at this point, I could already move to a later question in your presentation, namely whether a theory of religion that starts with the notion of the sacred is not a reduction of religion to, let's say, primitive. I mean, you don't use that term any longer, huh? But you understand what I mean, to primitive religion. And I say no, because sacredness is just the starting point. Transcendence, in this ambitious sense, stands in a specific relationship to the phenomenon of the sacred. So the fifth chapter of the book, Les Pouvoirs du Sacré, has the title Transcendence as Reflexive Sacredness. You know, I think the understanding of transcendence is that because of this different metaphysical dimension, nothing on earth is sacred by itself. In every Catholic Holy Mass, we speak about God as fons omnis sanctitatis. God is the source of all sacredness. I think that has a very profound meaning. Yeah? Namely, we are constantly tempted to treat mundane phenomena as sacred. But we are not, as Christians with a transcendence-oriented faith, we are not allowed to treat anything mundane as sacred, except if it is in a specific relationship to the transcendent God. For example, the saints are the friends of God. Huh? And only if they are the friends of God, we may venerate them. Only if they are recognized saints, if we venerate other human beings, that goes again. And so, okay, much more could be said about that. But just to make clear that for me, this distinction between the experience of self-transcendence that leads to the sacralization of objects, times, places, persons, and so on earth, and the ideas about transcendence are two different things, but stand in a historical relationship to each other. Now, I briefly continue in saying, because you asked, does that mean that human beings can sacralize many mundane phenomena? Yes, of course. And that is true historically. Let's say the sacralization of rulers, the sacralization of the nation, and so on. It can be, rulers, it can, under totalitarian conditions, for example, even in a civilization permeated by the spirit of transcendence, it can come back, in the sense of the sacralization of the Führer, or of the Aryan race, And although they wouldn't have called it like that, let's say in Stalinism, but the clear case is Maoism. I would say, of a sacralization, including quasi-holy scriptures, Mao's sayings and so on. And I don't know whether I should mention that, but perhaps I do it in a kind of autobiographical way. It is, all these things are very important for me because among my own relatives were people who sympathized with the return to pre-Christian Germanic religion in Germany. You probably know that in the, let's say, at the margins of the Nazi movement, but Rudolf Hess, there were people who were very active in abolishing Christianity and replacing it by pre-Christian Germanic religious life. And I recently read in Jacques Maritain that the anti-Semitism of the Nazis should be considered a revolt against transcendence. You understand? I find that a very profound idea, to be honest, that they dislike the Jews because there cannot be Judaism without transcendence, so to speak. So it symbolizes, Judaism in a certain sense symbolizes the breakthrough to transcendence. Now, the church. So yes, you can sacralize everything. You can sacralize the principle of laïcité, which sounds paradoxical, but I think happens in this particular country above all. Now the church. I have a few remarks on your questions regarding the church. Durkheim, you're right, in his definition of religion, calls religious community church. I think that is wrong. Because the church in the Christian sense has something to do with the moral universalism of Christianity. Let's say religion in the Roman Empire could organize itself in the institutions of the Roman Empire. But Christians cannot really organize themselves in the organization of a particular political community, so to speak, yeah? Because Christianity, at least on paper, so is open to all human beings, yeah? From all ethnicities, all peoples. Yeah? You should go to all peoples and disseminate my message all over the world. And this means it cannot be, the organization cannot be the representation only of one ethnicity or of one state, of one empire. Yeah? And I think that that is a very important reason why there is a church. Yeah? A church that transcends all political boundaries. Yeah? Now that may sound too Catholic for many, yeah? And I personally think it is not simple. I mean, although that, you know, it would take too much time now to speak about. No, I mean the specific problem in Orthodox Christianity and in Lutheran and in Calvinist, and so, yeah, and where the temptation to become exclusively national is greater, and so on. But yeah, I leave that aside. But for me, this connection to the church, or the connection between church and moral universalism, is absolutely crucial. Now, in parentheses, a short commercial. My last book has the title "Why the Church," and it has not found a French publisher yet. So, if somebody's in the room, now, Ricoeur, your impression that what I am saying is close to Ricoeur is absolutely correct. I feel very close to Paul Ricoeur. And I was very happy when I received this Prix Paul Ricoeur in France, because I have admired Ricoeur and written about Ricoeur for many, many years. There are small differences, I would say. And one of the differences is something I think you had a sensitivity for. Namely, I think in Ricoeur, reading the scripture is one of the royal roads to religious experience. And that's less true for Catholics, I would say. Yeah? Yeah. Or in Catholicism, there is a wider spectrum for religious experience, less of a focus on sola scriptura. Yeah? And, but Ricoeur, I would even say, struggled with that. So it's not that he didn't see. Yes. And there are, I would say, discrepancies between different of his publications in, with this regard. And I've written something in some other place about it. Let me see. Yeah, the conceptual history of Sanctus and Zazer. I mean, these are, it's not that the terms became distinct later, but they were originally distinct. And I'm told that already in medieval Latin there is a kind of confusion. So in ancient, in antiquity, there is a distinction. In the Middle Ages, you can say Sacra Ecclesia, Sanctum Imperium. Yeah. And then it's no longer clearly differentiated. And in this volume that you have edited, there is a contribution by the Catholic theologian Christoph Theobald about this conceptual history, and I'm simply not competent. I learn from what philologians tell me, but I'm not myself competent in studying this conceptual history. Perhaps I should end at this point because it was very long. Now I turn to Marc Boss, and I found that very interesting, your intervention and your contribution to the debate between Catherine Colliotti-Lane and myself. I think you mentioned, I would like to mention, that of course what I had expected was that the great French Weber expert says, my whole critique of Max Weber, totally nonsensical. But she says, no, if she says, if I were Max Weber's lawyer, I would tell him, don't protest, accept the verdict. he's right. Yes, but then she says, yes, there is a, that my project is impossible. Now let me explain why I think it's possible. I'm not saying this third volume, I'm neither saying what you said, a synthesis of synthesis. No, I'm not saying this is a synthesis of Weber and Hegel. I say Weber was wrong and Hegel was wrong. So we need an alternative to both. I mean, I think it's not so surprising that both may have been wrong. Wrong in the sense of Weber makes the claim that modern European secularization, I will come to that when I react to you, that modern European secularization is not just a phenomenon of the 18th, 19th, 20th centuries, but has a long prehistory. So let me emphasize what Weber says about disenchantment is not about secularization, but about an alleged 2,000-year prehistory of European secularization. Perhaps it's helpful when I explain that this is not secularization he's talking about, but I mean, there are two intellectual possibilities when you try to understand why Europe is the most secularized continent in the world. One is to say we have to explain that out of specificities of European history from, let's say, the 18th century on. And the other possibility is to say, no, this does not follow from European history, but from the essence of Christianity or the essence of the Judeo-Christian tradition. And you came close to that. Yeah, Christianity is la religion de la sortie de la religion in Marcel Gauchet, and several other thinkers. And I'm saying this alleged prehistory of modern European secularization is wrong. It is not the inherent essence of Christianity that leads to secularization. It was contingent circumstances of European history. All this is, of course, totally debatable. I just want to make clear what I mean. And that can be wrong. I mean, Weber's claim of this prehistory of secularization can be wrong. And I think Hegel clearly knew so little about, for example, Chinese religious history, that it is not surprising to say he was wrong. How could he have been correct, so to speak, on this extremely small empirical basis that he had? And he was full of prejudices against Catholics and so on. So I'm not megalomaniac when I say both Hegel and Weber were wrong. I simply think, yes, they were both wrong in many important respects. It doesn't mean I'm right, but it means we have to find answers to questions where we cannot accept their answers. So I'm not, and that is something I think Catherine Colliot-Tilen got wrong, I'm not saying now I am writing the one absolutely comprehensive and correct history of everything. I mean, that would really be ridiculous. What I'm saying is, if a crucial element of a potential value consensus today is moral universalism, moral universalism means the main criterion for moral decisions is what I'm going to do good for all human beings or just for the members of a particular collectivity. So that's what I mean when I say moral universalism. And then you can become more ambitious and say for all human beings, even those who have not yet been born, for example, future generations and all that. So it's in itself a conflictual field. But in principle, I would say many people today are moral universalists. They do not dispute that it is better to take all human beings into consideration and not just the members of your nation or of your religious community or whatever. And I think this moral universalism that is not totally consensual today, but has an important role to play. Many people feel attracted to it and so on. It's neither purely religious nor purely secular. There are Christian moral universalists. There are Jewish moral universalists. There are Muslim moral universalists, Buddhist moral universalists, and so on. Confucian. There are Kant-oriented, there are Habermas-oriented, there are Rawls-oriented, secular moral universalists. So it's the coexistence of different forms of moral universalism. And I think all moral universalists should be happy that there are the other moral universalists around, and they should form coalitions with the other moral universalists against remaining or newly emerging moral particularists. And again, speaking as a German, like before, I take Nazism as a conscious form of moral anti-universalism. I mean, the whole point about racism is to say, no, you should not treat all human beings as having the same dignity, the same quality. You should ignore their needs, maybe kill them, because the only thing that counts is the well-being of the superior race or whatever. So the history of racism is a history of anti-universalism, I would say. And there are also new products of that history. We don't know what the future will bring. That's why I said, and you quoted that, we should not think about the future as a constant future growth of moral universalism. No, the fate is open. And now my question is, what is the history, what are the main breakthroughs in the history of this moral universalism? And this is not the history of everything, it is a very specific question. And it's even more specific because I have a social scientific theoretical assumption for what drives the history of moral universalism. And I could talk about this for hours, but I will just mention the basic idea that the history of moral universalism is connected to the history of what I call political universalism, namely the formation of empires. Let's say the history of ancient Judaism is a history of resistance to the strength of archaic empires, I would say. The Assyrian, the Babylonian, the Egyptian, the Persian Empire. And there is an interaction between the history of empires in the sense of we claim complete political domination about the world as we know it, and the idea that political domination cannot be the last word, so to speak, from a universalist viewpoint, but that maybe our God is higher even than the sacralized ruler of the most powerful empire around. And so the whole book, this third volume, is about theoretically derived different constellations of the interaction between religious forms of moral universalism and the formation of political empires. So that's not a narrative in the sense of a complete narrative, but it's a study of the original emergence of moral universalism, the takeover of moral universalism by empires, the Christianization of the Roman Empire, for example, or imperial Confucianism. And then what happens when an empire collapses or is at least imagined to collapse? I'm referring to Augustine, What then happens to the moral universalism of Christianity if the political support of the empire cannot be treated as stable? And so on. And this has to be open to the non-European world. It's not Eurocentric, because I claim that original Buddhism, for example, was also morally universalist. And that even in the 20th century, outside Europe, there were important new breakthroughs in the direction of moral universalism. For example, Gandhi, saying the British claim to be morally universalist, but we experience them as suppressing us and just following their particular interests, of domination, political domination again. And against that, we can mobilize the Indian spiritual tradition, and this will be a more honest universalism than the British pseudo-Christian universalism ever was. So I realize that I'm talking too long, so briefly on you. We would need more time, so to speak, because we did not really speak about exactly the same question. So let me say, when I argue against the secularization thesis, of course, I'm confronted with the fact that the term secularization has very different meanings. And in an earlier book, I wrote 7 different meanings. Then Charles Taylor published his book, The Secular Age, and he has an 8th meaning. So it's really confusing. So let's say, for the purpose of certain texts, I say, to be clear, I use the term secularization here only in the sense of decline of religion. Still, this is not completely clear, because you can say, does that mean declining membership in religious organizations? Does that mean declining participation in religious rituals? And all these things are not identical. But, for example, it has nothing to do with secularization in the sense of the emergence of a neutralized public sphere that is not under the control of churches or other religious organizations. This is a different meaning. And so my critique of the secularization thesis does not imply that there is no such thing as secularization. It's only saying, what exactly do you mean? And if you mean decline of religion, then I think the long dominant assumption that economic growth and scientific progress, these are now attempts to paraphrase modernization, that economic growth and scientific progress are the causes of the decline of religion, that this is not correct, that this is empirically falsified, so to speak. That's what I mean when I say that. A critique of the secularization thesis. So this does not mean all the other meanings are nonsense, or it does not even mean that there is no decline of religion. It says, of course, it's simplistic to assume that economic growth is the explanation, but so what is the explanation? It means we need an alternative explanation. I think I leave Carl Schmitt aside. He's really playing a different game, so to speak, on which I could comment. But I cannot leave aside what you said about me being in favor of integralist religion. This I cannot tolerate, because the evidence you offered for that was my statement that religious is not a sphere in a society, so that the church is responsible only for the religious and should not speak out on anything else but the religious. I'm against that. And I say every religious believer, and particularly morally universalist religious believers, feel responsible for many things that are not religious. I mean, let's say a Christian somehow cannot tolerate the fact that there is mass starvation on earth. That's not my business. I'm religious, so my only interest is religion. That would be ridiculous. And particularly ridiculous for Christianity, Judaism, Islam. So to say a religious person feels responsibility for many things that are not religious in the narrow sense does not imply an integralist conception in the sense of, so my religious community should have the say in all matters, economic, political, and so on. These are two totally different things. I am for a morally universalist Christianity, but certainly against a defensive integralist Catholicism. And I see the impatience in your eyes, and so I finally stop you.
Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Anne, pour cette réplique, ces réponses à ces interventions. Ça me donne envie de poser plein de questions, mais je crois qu'il vaut mieux laisser c'est assez fascinant d'entendre ce que vous dites sur la perspective de votre troisième ouvrage, sur le lien entre l'histoire de l'universalisme moral et l'histoire des empires. C'est un point important, mais on peut se demander, alors quand il n'y a plus d'empire, il n'y a plus d'empirisme, il n'y a plus de... Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça ne marche pas comme ça, j'ai bien compris.
I mean, the first thing is, there are empires. I personally am speaking about the US empire. I mean, it's a kind of a fragmented empire. The U.S. has never tried to have a colonial empire in the sense of territories neighboring each other, but it is an empire, I would say. And, of course, in the self-understanding of Russia and of China, there are clear imperial traits. And we could have interesting debates about whether the European Union is beginning to become an empire of itself. It's not that we are not living in a world of empires. I'm afraid we are entering an age of increased inter-imperial conflict. That's the interesting question. For example, the American empire has a universalist ideology of legitimation. Namely, we are not just following our national interests, but we are acting in favor of the dissemination of democracy and human rights. So why not be happy about that? That there is a political power that acts for the sake of democracy and human rights. I mean, ask people in Latin America, and most people will tell you the real history of American interventions is quite different from the facade, so to speak. I will not go on, but speak about universalist elements of the Russian Empire that are more similar, I would say, to universalist elements of the former bygone German imperialism, namely, we defend the small nations against the equalizing forces of Western imperialism. That was the ideology of German imperialism in the 19th and early 20th century. So there are universalist features in the self-justification of the imperial ambitions both of Russia and of China.
Oui, vous parlez des conditions historiques et finalement contingentes de l'apparition de cette universalité. Je me suis posé aussi une question, je me suis dit, mais est-ce que dans l'universalisme moral dont vous parlez, finalement, est-ce qu'il a besoin de transcendance pour exister?
Very, very, very important question. That I have been asked before by others. So my standard reaction is to say the following. Let's distinguish between the genetic and the structural. That means let's first ask the question, was the emergence of moral universalism necessarily connected to an understanding of transcendence in this strong sense? And there my answer would be yes. Yeah. Because, you know, before the emergence of the concept of transcendence, it was kind of obvious that human collectivities distinguished themselves from other human collectivities. When you have an understanding of transcendence, all human beings suddenly fall on one side. We are all mundane human beings. And now in the Judeo-Christian tradition, this means there is a creator who created the whole world, all the human beings together, so to speak. So we share something as creatures. And doesn't that have the moral implication to treat all human beings as God's creatures? All are created in the image of God and so on. Yeah. And then I would have to modify this picture a little bit to do justice to the moral universalism in the Chinese tradition. But there are also assumptions about transcendence, particularly in Confucius himself. In Confucius' writings themselves, I would say. Yeah? But that does not yet answer the structural question, namely, is the only authentic moral universalist today somebody who has an understanding of transcendence? And I would not say that. You know, I mentioned before, for example, let's say Kant, Habermas, and Rawls, I mentioned jokingly. Yeah. Now, Kant was a Christian and had an understanding of transcendence, although many Kantians today tend to ignore, I would say, the Christian dimension in Kant. Habermas clearly is not religious. And I would say struggling with that because he's a very convinced moral universalist and kind of envies the religious traditions that support moral universalism and tries to develop a huge philosophical edifice that helps to fill the gap of religion, so to speak. And I personally even think that why Habermas is treated by many not just as one of the many thinkers, but as a kind of prophet. Yeah, I mean, he has a charismatic quality for some people. I mean, the name even. Yeah. That has something to do with that. Yeah? That he is considered to be the one who finds the way to justify a non-religious moral universalism more convincing than anybody else did that in the past or something like that. Yeah? And I would not want to argue this is an impossible endeavor. I would like to say, let's be welcoming as, let's say, Christian moral universalists, let's be welcoming to authentic non-Christian and maybe secular moral universalists. Who am I to deny the truthfulness of their conviction, so to speak? Certainly not. I would not like... You know, as in the 19th century, many Catholics argued that moral decline will be the consequence of secularization, which was empirically not true. I sometimes say Sweden is the most one of the most secularized European countries, but one of the most strictly moral European countries at the same time. So the connection is not so easy. We should not, in a similar way, now argue today there cannot be authentic moral universalism without religion. No.
Alors, oui. Je vais essayer de traduire ce que vous avez dit. Oui, ma question c'était, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre l'universalisme moral et une idée de la transcendance? Alors, vous avez répondu d'abord oui. Enfin, qu'il y a... Voilà. Mais vous êtes prêt à admettre qu'il puisse y avoir un universalisme moral non religieux. Voilà. Mais c'est une question. C'est-à-dire que ça reste... oui, une possibilité, si j'ai bien compris, dans votre... Mais c'est vrai qu'il y a, quand même quelque chose qui fait que, pour accéder à cette idée de l'universalisme, il faut malgré tout que j'allais dire que l'humanité se conçoive comme une. Ça veut dire qu'elle se conçoive comme une par rapport à autre chose qui n'est pas elle. Quoi ? À construire. Mais la religion donne une des solutions à cette question. Mais pas... Il peut y avoir d'autres manières de concevoir cette différence.
Une question, si je vous permets.
Pardon.
Il ne suffit pas de dire religion. Il s'agit de voir qu'est-ce que, à partir de la religion, quel regard on porte sur la religion pour atteindre l'universel. Je pense à Michael Walzer, vous vous souvenez, universel réitératif. C'est-à-dire, Walzer dit, on peut parvenir à l'universel en faisant une récollection de toutes les expériences singulières qui se ressemblent, par exemple d'aliénation, ou bien on peut faire l'universel avec une loi englobante qui est donnée d'en haut et a priori. Vous voyez bien que ces deux formes d'universel touchent à deux anthropologies différentes, bien sûr. Je pense que c'est peut-être ce que tu voulais...
So, with regard to Michael Walzer, in many respects, I feel very close to Michael Walzer's thinking. So there is not much of a difference. I mean, he develops, for example, in his book on the prophets, he develops his ideas out of the mostly Jewish tradition. But where I find him particularly strong is that he tries, and that is something you alluded to, that he tries to defend a moral universalism that is well balanced with our particular obligations. You know, that to be a universalist does not mean not to feel any obligation to particular collectivities, so to speak. Yeah? And how we balance this, I think for that topic, he's one of the most interesting thinkers. But I wanted to add to this brief exchange that we should not think about the, let's say, emotional basis for moral universalism exclusively in terms of positive doctrines, because it can also be, let's say, negative experiences. I would say, let's say, the Holocaust is such a negative experience where people with totally different religious and non-religious convictions can easily agree this is totally evil. We have to prevent something like that from ever happening again. And so, and then there is a kind of agreement. Yeah, yeah.
Merci. Oui. Non, non. Bien. Allons-y. Alors,
Your first point about the intensity of experiences. Let me try to respond by referring to an, let's say, empirical area of study, namely about religious conversion or conversion in general. not only religious conversion, because you can treat people who lose their faith without joining another religious community also as undergoing a conversion, or my examples of becoming a Marxist or losing the faith in Marxism. And a crucial distinction with regard to that, and a possible misunderstanding of what I said, if you allow me to refer to William James again, the varieties of religious experience, is the distinction between gradual and sudden conversion. And he says there are sudden conversions in the sense of from one moment to the other. You probably know in James Joyce, the portrait of the artist as a young man, he is raised Catholic and goes to the beach and sees young ladies in swimming suits, and from one moment to the other gives up all his biographical projects in the Catholic framework, so to speak. Yeah? So sudden conversions, but also gradual, but over a very long time, the number of doubts becomes bigger and so on. And the interesting thing, so I'm not saying the intensity necessarily is of the sudden character. It can accumulate because your consciousness has different levels, so to speak, and you accumulate doubts, but they do not enter into the core of your convictions and so on. But the interesting point is now that James says, but at a certain point, something must happen, so to speak. Even in the gradual conversion, there is a moment when the old framework is replaced with a new framework. Again, I could that apply to my example of falling in love. Some people really fall in love. Let's say they enter a room, see the other person, and that was the coup de foudre for the rest of their lives or whatever. But some people fall in love after having known each other for many years. And it's a slow growth. But still, there will be one moment that is the moment of revelation, so to speak. Now I have to admit that I have gradually fallen in love with this person. So intensity is there, but not necessarily, let's say, this one moment, although this also exists in religion, in love, and so on. Yes, exactly. And some people, of course, have the feeling that they have suddenly fallen in love, but they realize the day after that it was not the case. So, I mean, I constantly try to think about human beings on, let's say, the different levels of pre-reflective immediacy and reflective articulation of what you have experienced, and on tensions between what you experience and how you describe your own experience. And okay, second point about Hegel, this, where is the first volume of the trilogy, the one where Weber is the main focus, really attempted to give the most precise and most extensive, let's say, philological interpretation of everything Max Weber ever had to say about disenchantment. I make the claim that there is no comparably detailed microscopic study of what Max Weber ever had to say about disenchantment. The second volume doesn't do the same thing with regard to Hegel. That would have taken me the rest of my life, I would say. Yes. And I was not motivated enough to do that. So what I did was I asked four questions regarding Hegel, and then they formed the whole structure of the book. I mean, can we accept his understanding of the religious faith, his understanding of history, his understanding of political freedom, and his understanding of Europe. And this is not an arbitrary choice, because the purpose is to say his history of the connection between religion and freedom in Europe because of Christianity is wrong. So I have to investigate whether I accept his understanding of the religious faith, his understanding of a kind of logic of history, his understanding of freedom, and what he knew about the non-European world, to relativize what he says about Europe. And that I did, I think. And I mobilized diverse thinkers, including Ricoeur, of course, Ricoeur. because Ricoeur is, in this, the temps et récit, I think, absolutely great in the sense of we have to produce huge narratives, but without falling into the Hegelian temptation, as he calls it, of producing a kind of teleological assumption within the narrative. And for the understanding of, I can briefly say, for the understanding of faith, I mean, I go back to all the other things, namely whether what he says, or the question is, does he end up with a relatively intellectualistic understanding of faith? And don't we need a different conception and understanding of religious faith? And with respect to freedom, my main interest is what I find particularly strongly developed in Paul Tillich, for example, is and I have difficulties to say that in a few sentences, but that we owe our ability to act freely, certainly to other human beings. We do not create ourselves as free, and that we can, from the indisputable fact that, let's say, maybe my parents or my teachers or whatever enabled me to become free, we can develop that in a transcendence-oriented direction. God created... God created us as being able to be free. And Jesus, Galatians... brought freedom to us, so to speak. And this goes, I would say, beyond Hegel's horizon. And about Europe, Auguste Comte. sorry, I was so absorbed. You know, again, my way to react would be the following. Certainly, Weber was not the first one to assume that there is an ongoing process of secularization. That thinking started in the 18th century. Again, I take it to be a kind of empirical question in the history of ideas. From when on did European thinkers say Christianity may disappear in Europe? You know, I had an article actually in the Frankfurter Allgemeine Zeitung where I said the last one, I think, who could imagine that Christianity will disappear was Augustine. And between Augustine and the 18th century, I think nobody could even imagine that Christianity could disappear again. I mean, the assumption among Christians was it will become stronger and stronger. But we know, for example, that Frederick II of Prussia assumed that Christianity may not survive in Prussia. Even Thomas Jefferson made such remarks that in the U.S., maybe, in one or two generations, there will not be any Christians any longer. And so, but I would be interested in if people know other sources, so to speak, for that. It's a strange phenomenon. It started in the early 18th century, I would say. And then, of course, people had to justify this prediction somehow. Huh? Why is Christianity becoming weaker, or why is all religion becoming weaker? And what will replace it? And I think that's the basis for secularization theories in this sense of a decline of religion. To say, yeah, now we have discovered certain social mechanisms that lead to the disappearance of religion, and it is a good thing that it is to disappear. It will be replaced by something better. Yeah? And this better are different things. Yeah? For example, in the early German Democratic Republic after the war, of course, they said in the year 2000, Christianity will have disappeared from the soil of the first German workers and peasants' state. Yeah? That was a relatively official prediction, and all these predictions have been disproved so far.
Yeah. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Antioas, pour vos réponses.